Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'Un des Sciences, la nouvelle façon de vous parler de science. Chaque mois, nous vous proposons un nouveau podcast avec un chercheur ou un acteur scientifique du quotidien pour vous parler de physique, de mathématiques, de biologie, de chimie, d'environnement, de géologie, de toutes ces choses qui nous entourent. Les podcasts d'Un des Sciences ont pour but de valoriser les travaux de recherche, mais aussi de mettre en lumière les actions permettant la vulgarisation scientifique. Vous pouvez suivre notre actualité sur www.indesciences.com. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Merci, bonne écoute. Bonjour Romain, merci d'avoir accepté d'intervenir dans ce nouveau podcast d'Un des Sciences. Alors Romain, effectivement, on a un lien particulier avec toi puisque tu es un des cofondateurs d'Un des Sciences. Donc on est ravis de t'avoir avec nous. Et pour commencer, comme pour tous les invités, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours scolaire? Qu'est-ce qui t'a amené à faire une thèse? Et après, nous parler un peu de ta thèse en détail.
Bonjour Mathilde, bah, déjà merci beaucoup de m'inviter participer au podcast d'Un des Sciences. Je suis très, très fier, très heureux de venir vous parler aujourd'hui. Alors, je voudrais préciser que je suis à distance, je suis à New York, puisque c'est là-bas que je fais mon postdoc. Et puis, je suis très heureux de pouvoir, grâce à la magie de la technologie, vous parler aujourd'hui. Alors, mon parcours, il est assez linéaire. Comme vous vous doutez, en tant que scientifique, j'ai commencé par être un excellent élève jusqu'à la troisième. Et après, j'ai été plutôt un élève de lycée médiocre qui avait d'autres centres d'intérêt, on va dire, que les études à ce moment-là. Et je pense que c'est important de le dire parce que j'espère qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent. Et voilà, c'était pas prédestiné pour moi, c'était pas écrit que j'allais faire des sciences et que j'allais m'intéresser à des choses complexes. Et après le lycée, bon voilà, il se trouve que j'étais proche, très proche de mon grand-père. Mon grand-père qui était un médecin, mais vous savez, ces médecins un peu old school, plus littéraires que scientifiques. Et donc, on avait beaucoup de discussions sur la nature de l'esprit, sur la perception, sur le rôle, le lien entre les arts et les sciences. Et donc, naturellement, j'ai voulu faire comme lui, j'ai voulu devenir médecin. Et je savais déjà que ce qui m'intéressait, c'était les troubles de l'esprit et du fonctionnement du système nerveux. Donc, je suis parti, comme beaucoup de jeunes bacheliers, en médecine, dans l'espoir de faire un long parcours de médecin et potentiellement de neurosciences ou de psychiatre. Ce n'était pas clair, la distinction à l'époque. Et puis, ça n'a pas du tout marché pour moi, la médecine. Je n'étais vraiment pas fait pour ça. Et donc, rapidement, j'ai dû laisser tomber. Et puis, j'étais un peu perdu. Puis, c'est ma maman, en fait. C'est ma maman qui m'a dit, mais tu sais, il y a une formation à l'université. La fac de sciences, tu te rends compte? La fac de sciences qui s'intéresse aux neurosciences et en fait aux sciences du cerveau, et peut-être que ça pourrait te plaire. Et puis alors là, ça a été la révélation. J'étais à Marseille, à l'époque j'ai fait le début de mon parcours étudiant à Marseille. Et là, la révélation, les cours m'ont passionné, ça a marché pour moi, j'ai commencé à être vraiment assidu, à avoir de très très bonnes notes aux examens. Et puis donc après ma licence à Marseille, je suis parti faire mon master à Paris, master de neurosciences, où là j'ai fait... Donc c'était à l'époque à l'université Pierre et Marie Curie, maintenant Sorbonne Université, et à l'école normale supérieure, la rue d'Ulm, où là j'ai eu des super profs aussi, et ça a nourri encore plus ma passion pour ce domaine de recherche. Et puis tout naturellement, voilà, j'ai fait mes stages de recherche, et puis j'ai commencé une thèse dans un des labos que j'ai fréquenté pendant mon master à Sorbonne Université. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à faire une thèse en neurosciences et à devenir un jeune chercheur dans le domaine.
Alors, bah, on va parler un peu de ta thèse, de ton doctorat. Alors, est-ce que tu peux nous parler déjà un peu de ton sujet, hein, plus particulièrement, et de comment ça s'est passé pour toi, le doctorat? Est-ce que déjà, ça a été difficile pour toi en amont d'accéder au doctorat, d'accéder aux informations autour de ce diplôme, de juste comment postuler, voilà, comment te lancer dans un doctorat? Et après, comment ça s'est passé, tes 3 ou 4 années, jusqu'à ce fameux jour de la soutenance?
Oui, effectivement, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, mon parcours a été assez linéaire et donc finalement, je n'ai pas eu vraiment de difficulté à accéder à cette formation de doctorat. Ça s'est fait un peu naturellement. En revanche, quand j'ai commencé dans ce domaine d'études, dans les neurosciences, en licence, puis en master, je n'avais pas vraiment d'idée précise de ce que c'était un doctorat en sciences. Et c'est vrai que pour moi, j'avais un peu, enfin, je viens d'une famille de médecins, et pour moi, le doctorat, c'était le doctorat en médecine, et puis j'avais une vague idée de ce que c'était un doctorat en recherche. Et ça s'est fait un peu naturellement parce que dans un de mes labos de master, mon PI, mon boss, en fait, m'a assez rapidement proposé et m'a dit, écoute, ce serait bien que tu restes avec nous en thèse. Et puis, je commençais à comprendre que c'était un peu la voie d'issue principale quand on voulait faire de l'académique et continuer à s'intéresser à ces questions. Donc, assez naturellement, j'y suis venu un peu comme des étapes qu'on franchit après la licence, le master, après le master, le doctorat. Et puis, comment ça s'est passé, tu me demandais. Je pense que, déjà, je m'estime extrêmement chanceux. Je pense que ce n'est pas facile pour tout le monde, le doctorat. C'est assez compliqué dans certains cas. Beaucoup de pression, beaucoup de... voilà, c'est une situation qui est malgré tout assez précaire. On voit ses collègues qui ont choisi d'autres domaines, qui commencent à s'installer confortablement dans la vie. Voilà, on n'est déjà pas tout jeune quand on commence une thèse. Et puis, il faut vraiment avoir de la motivation. Et moi, la chance que j'ai eue, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de doctorants, c'est de m'entendre extrêmement bien avec mon équipe et d'avoir un rapport humain avec eux qui m'a donné envie de continuer et d'être là, quoi. Ce qu'il fallait faire pour être avec eux et continuer à bosser au quotidien, c'était une thèse, et ben, let's go. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, j'ai commencé cette thèse. Et puis alors là, c'était vraiment la réunion de deux choses qui me passionnaient. C'est-à-dire qu'avec mon directeur de thèse, vraiment, il y avait deux boss dans l'équipe. Mon directeur de thèse, il avait des projets super innovants, quelque chose de complètement nouveau dans le domaine. Il avait développé pendant son postdoc à Berkeley, en Californie, des récepteurs à la nicotine qu'on pouvait contrôler avec la lumière. Mais voilà, ça avait été fait in vitro et il fallait encore faire toute la démonstration de l'utilisation de ces récepteurs dans des neurones et pourquoi pas in vivo dans des modèles animaux pour essayer de contrôler ce récepteur et comprendre à quoi il sert, et notamment à quoi il sert dans l'addiction à la nicotine. Et donc ça tombe bien parce que l'autre PI de l'équipe, lui, c'est plutôt un physiologiste, quelqu'un qui fait vraiment de la neuroscience des circuits, des systèmes et des comportements. Et donc une partie de ses projets, c'était de comprendre l'addiction à la nicotine. Puis là, il y avait ce nouvel outil. Et donc mon sujet de thèse, c'était exactement ça, c'était développer cet outil pour l'utiliser et comprendre quel était son rôle dans l'addiction à la nicotine. Et donc, c'est ce qu'on a fait pendant 4 années, tu disais 3 ou 4 années, pendant 4 années de thèse, comme beaucoup d'étudiants, en tout cas en biologie. J'ai développé cette méthode pour pouvoir l'utiliser dans des neurones et pouvoir l'utiliser in vivo, donc dans un modèle animal de recherche, chez la souris plus précisément, pour essayer de comprendre le rôle vraiment de cette sous-unité qu'on ne peut pas cibler avec la pharmacologie, parce que la pharmacologie, elle va agir sur tous les sous-types de récepteurs. Si on l'enlève par la génétique, on le perd complètement et on a des mécanismes d'adaptation. Là, on pouvait le contrôler avec la lumière. Donc, c'est vraiment la meilleure précision spatio-temporelle qui soit. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir des cinétiques rapides et puis le restreindre à une petite population de neurones pour vraiment comprendre le rôle de ce récepteur précis. Et voilà. Et donc en l'utilisant, on pouvait le bloquer avec la lumière et on a montré que dans une zone particulière du cerveau, qui est un noyau dopaminergique, en bloquant ce récepteur précisément, on bloquait le renforcement à la drogue, qui est la première étape de l'addiction. Et donc ça venait confirmer déjà qu'on pouvait utiliser ce genre d'outil pour comprendre les circuits, et deux, qu'on pouvait biologiquement que ce récepteur à cet endroit-là du cerveau, c'était la première étape du renforcement à la nicotine.
En t'entendant parler là, déjà je trouve ça important que tu soulignes que pour toi ça a été une bonne expérience le doctorat, parce que comme tu l'as dit, on vit pas tous la même expérience du doctorat, et je trouve ça chouette d'entendre des gens positiver autour du doctorat. Et du coup je voulais te demander, qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi le doctorat, hormis toute la connaissance scientifique, hormis le fait que voilà, tu es devenu vraiment un spécialiste dans ton domaine, étant donné que tu as cofondé Indesciences bien avant ta thèse, est-ce que le doctorat pour toi ça a été encore plus un moyen d'augmenter ta communication scientifique, ta rigueur scientifique, ta façon de communiquer? Comment tu l'as vécu? Est-ce que avec du recul, tu trouves que ça t'a apporté quand même énormément de soft skills, ce qu'on appelle, voilà, c'est un mot un peu à la mode. Voilà, qu'est-ce que, en dehors de la science, tout ça t'a apporté, quoi?
Oui, effectivement, il y a une grande partie de ça, quoi. Encore une fois, j'ai eu la chance d'être entouré de gens extrêmement ouverts dans mon équipe de thèse, là où j'ai fait mon doctorat. Et du coup, ils m'ont laissé un petit peu la liberté. Donc moi, j'avais déjà ce goût pour la communication des sciences et j'avais en moi ce ressenti que c'était fondamental en tant que scientifique de développer ses compétences parce que ben, on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe, particulièrement dans le contexte incroyable, inédit qu'on vient de vivre de cette crise du Covid-19. Les informations circulent vite et souvent les informations circulent mal. Et je pense que c'est une priorité pour les scientifiques d'apprendre à parler de leurs résultats, à parler de leurs recherches, parce que finalement, ce sont ceux qui sont peut-être le mieux placés. En tout cas, ils doivent faire partie de la discussion. Et donc, pendant mon doctorat, bon, bien sûr, il y avait tout le dur labeur au quotidien, et ça, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. J'ai pu développer des outils de communication digitale, notamment les réseaux sociaux, parfois au nom du laboratoire, de l'équipe, et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de leur apporter, de vraiment être présent sur les réseaux sociaux, que le laboratoire soit une entité qui interagit avec la société. Ça, c'était quelque chose qui me paraissait fondamental. C'est-à-dire que si un débat surgit, par exemple, sur Twitter, qu'il y ait des entités, des labos spécifiques, spécialistes, qui vont pouvoir interagir sur des questions données et qui vont pouvoir juste discuter leur opinion. Ça me paraissait important. Et donc, mes boss à Sorbonne Université m'ont laissé faire ça. C'était génial. Et puis après, à côté de ça, ils m'ont laissé faire plein de choses. Déjà, premièrement, continuer l'aventure Indesciences en parallèle de mon activité de recherche. Ça, c'était génial parce que c'était à la fois enrichissant. On a rencontré des gens incroyables. Tu es très bien placé pour le savoir. C'était vraiment une aventure humaine et pré-professionnelle, j'ai envie de dire, associative en tout cas, passionnante. Et puis, c'était aussi un bol d'air frais les jours où ça n'allait pas trop au laboratoire. Il y a des jours où c'est dur, les expériences ne marchent pas, tu ne sais pas trop où tu vas aller, tu ne sais même pas si tu vas continuer la recherche. Mais c'était un à côté qui parfois devenait le point central, le point principal. Et c'était tellement un bonheur de pouvoir jouer sur les deux tableaux, de pouvoir faire les deux. Honnêtement, j'ai adoré ça. Je pense que ça m'a permis d'être épanoui. Et je pense que ça m'a permis, d'une certaine manière, de rencontrer plus de succès pendant mes thèses parce que j'avais ce petit rayon de soleil à côté qui était de m'occuper avec des personnes incroyables des événements qu'on faisait et de la communication qu'on faisait à côté. Et puis même au sein de ma thèse en elle-même, voilà, j'ai décidé, parfois encouragé par les gens autour de moi, à faire plusieurs choses. Voilà, j'ai fait le concours ma thèse en 180 secondes. C'était une super expérience, même si je suis pas allé plus loin que finaliste pour Sorbonne, mais c'était super. J'ai fait un truc incroyable qui était le concours d'EN sur PhD pour le magazine américain Science. Et là, on est allé en finale complètement avec notre vidéo. C'était juste incroyable de faire cette vidéo, d'avoir des moyens techniques, un fond vert à l'université, au labo, de faire danser les collègues, les PI. C'était une expérience incroyable. Et puis, au centre, il y avait quand même, malgré tout, deux choses qui sont fondamentales à la recherche, qui est vraiment le côté équipe, le côté collaboratif, et bien sûr, le sujet scientifique, qui était le sujet du scénario, du script, quoi. Ça, on s'est régalé. Et c'est quelques exemples où, pendant ma thèse, j'ai pu développer ces compétences. Aujourd'hui, elles sont fondamentales pour moi en tant que jeune chercheur. J'ai encore beaucoup à apprendre et c'est un travail de tous les jours.
Alors là, ça va être la grande question par rapport à tout ce que tu viens de nous raconter. On voit bien que voilà, tu t'es épanoui donc non seulement dans ta thèse scientifiquement, mais quand même dans les à côté, donc tout ce qu'on va appeler la communication scientifique. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a mené à continuer dans la voie de la recherche ? Pourquoi un postdoc ? Pourquoi pas une carrière dans la communication scientifique ? On voit quand même que c'est un métier qui émerge et comme tu l'as souligné, c'est très important et on en a de plus en plus besoin de scientifiques qui se lancent dans la communication scientifique, voire même la communication journalistique. Donc, pourquoi ton choix ?
Oui, ça c'est une très bonne question, bien sûr, parce que je vais pas te le cacher, je me la suis posée la question, bien sûr. Et je pense que c'est sain d'explorer toutes les options possibles. Arrivé, on va dire peut-être à la moitié de ma thèse, ça marchait pas vraiment comme je voulais en termes de manip. J'avais beaucoup d'incertitudes et très peu de visibilité sur ce que ça allait donner. Bon, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Il y a une version un peu politiquement correcte, enrobée comme un bonbon au chocolat, et il y a une version un peu plus crue, un peu plus réaliste, un peu plus sincère. Je vais te donner celle-ci. La première, c'est que je ne pouvais pas arrêter. J'aime trop ça. J'aime trop la science, j'aime trop le travail au quotidien, j'aimais trop l'atmosphère qu'il y avait dans l'équipe dans laquelle j'étais. Et en réalité, c'est pas que j'étais drogué, mais comme ça avait finalement fini par marcher, j'avais réussi à publier mon travail en temps et en heure, la soutenance s'est super bien passée. Je savais à ce moment-là, quand j'ai soutenu ma thèse, que j'avais un labo de postdoc qui voulait m'accueillir, même deux en réalité, mais un en particulier. Et là, je me suis dit, je ne peux pas arrêter. Si j'arrête, je vais probablement le regretter. Et du coup, j'ai commencé un peu à développer cette mentalité, cette philosophie qui disait la voie de la recherche académique, elle est ingrate, elle est dure, elle est précaire. Quand tu peux faire ce métier dans les bonnes conditions, c'est un vrai bonheur. C'est vraiment passer du temps à poser des questions qui t'intéressent, à utiliser des outils formidables, enfin, à rencontrer des gens formidables. Donc, je me suis dit, tant que la porte est ouverte, vas-y, continue, éclate-toi dans ce métier. Si ça devient compliqué, si tu n'as pas le dossier pour un jour avoir un poste pour être recruté, il y aura d'autres choses que tu peux faire. Et là, bien sûr, parmi les choses que je questionne, eh bien, il y a évidemment la communication scientifique. Mais du coup, c'était un peu un non-choix parce que j'ai continué dans la recherche en me disant « je vais continuer à communiquer tout le long et pas que avec mes pairs. Je vais continuer à m'engager dans l'associatif, je vais continuer à écrire des articles un peu de outreach, de vulgarisation, voilà, ou de médiation, ça et là, pour mes collègues, je vais participer à des podcasts comme je le fais aujourd'hui avec vous, et c'est un immense plaisir. Voilà, c'était un peu un non-choix, et en tout cas, il y avait cette partie que je ne pouvais pas arrêter, parce que j'étais bien conscient de la difficulté de la recherche et des problèmes qu'il y a en recherche, et ça, on pourrait en discuter, ce serait peut-être l'objet d'une autre discussion. Mais moi, j'avais eu une super expérience, la porte était encore grande ouverte pour moi à la fin de ma thèse, je ne pouvais pas juste ne pas traverser cette porte.
Tu es actuellement, comme tu nous l'as dit au début, post-doctorant, donc à New York, à Liken School of Medicine. Tu nous expliqueras un peu mieux ce que tu fais là-bas. Donc, tu es en post-doctorat, toujours dans les neurosciences, mais il me semble que tu fais quelque chose de quand même assez différent de ta thèse. Est-ce que tu peux nous parler de déjà de ton sujet de post-doctorat, de comment ça se passe, et surtout, pourquoi New York, en fait?
Ouais, exactement, c'est ça. Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Donc en fait, c'est un institut de recherche biomédicale qui est au sein d'un des plus gros groupes hospitaliers de la ville de New York, qui s'appelle l'hôpital Mount Sinai, qui est vraiment très développé. C'est plusieurs hôpitaux dans New York et plusieurs centres de recherche. Voilà, il y en a d'autres. C'est pas rattaché particulièrement à une université. Donc en fait, c'est juste une école de médecine. Donc c'est vraiment orienté biomédical. Voilà, c'est pas comme si c'était NYU ou Columbia, c'est vraiment la fac de médecine, l'école de médecine, comme on dit ici, de ce groupe hospitalier. Alors, il y avait plusieurs questions dans ta question. Je vais commencer par celle qui est un peu à la racine, c'est pourquoi New York ? Pourquoi New York ? Déjà parce que c'est une ville que j'adore, que j'avais adorée quand j'étais venu en simple touriste, et j'étais appelé, attiré par cette ville. Voilà. Il y a certaines personnes qui ne sont pas des citadins et qui préfèrent chercher la nature, la campagne. Voilà, moi, je suis originaire de Corse, du sud de la France, vraiment très au sud. Et puis après Marseille, et puis après Paris, et puis maintenant New York. Donc je crois que je suis attiré par les grandes villes, leur dynamisme, leur multiculturalité, Et pour ça, c'était un choix qui s'est un peu imposé à moi. Alors, ce n'était pas l'unique choix, parce qu'il se trouve que je n'allais pas me lancer dans cette aventure tout seul. Je me lance avec la personne qui partage ma vie. Voilà. Et il se trouve qu'elle travaille, elle, dans le milieu de la mode. Et donc, il fallait trouver... Il était hors de question que je choisisse de manière égoïste un laboratoire de post-doc et qu'elle me suive par défaut ou qu'elle mette entre parenthèses son activité professionnelle ou qu'elle ne puisse pas me suivre, tout simplement. Donc, on a réfléchi ensemble et on a identifié les destinations qui pouvaient permettre à tous les deux de développer notre carrière, donc moi dans la recherche, et puis elle dans le domaine de la mode et de la création et du design. Et voilà, je pense que le lien est fait. New York, tout est possible. New York, c'est pour ces deux domaines une quantité d'opportunités incroyables. Voilà, c'était pas la seule. On a pensé aussi à Londres, on a pensé aussi à la Californie, à Los Angeles. On a pensé à la Suisse aussi. Et Paris aussi, hein, bien sûr, qui était bien placé dans les... Mais voilà, on voulait aussi profiter de l'expérience de partir à l'étranger. Et puis voilà, ça s'est un peu imposé à nous, parce qu'on était venus ensemble à New York, on a adoré cette ville. On avait le... Vous savez, je sais pas toi, Mathilde, si tu es déjà venu à New York, mais quand on arrive ici pour la première fois, on a vraiment l'impression que tout est possible. Alors, je dis pas que tout le monde adore New York, bien sûr, hein, on peut détester, j'imagine. Mais il y a en tout cas une énergie qui est dingue. Et quand on arrivait là, on s'est dit tout est possible, tout est réalisable. Même si ce n'est pas vrai, même si c'est une illusion, on s'y sent gonflé à bloc. Et donc, on avait envie d'être là. Voilà, c'est tout. On avait envie de venir ici. Et puis donc, du coup, donc ça, c'était la partie pourquoi New York. Et ensuite, il fallait trouver un labo aussi. Et il se trouve que par le réseau, par les discussions dans les conférences scientifiques, des connaissances de mes boss... des connaissances de connaissances, je me suis retrouvé à être candidat dans 3 labos new-yorkais. Et ce qui est incroyable, c'est que, un peu par accident, c'était mes 3 possibilités, mes 3 candidatures, je les ai faites à New York. Alors, je voulais venir à New York, mais je n'avais pas exclu l'idée de postuler ailleurs non plus, juste pour voir. Mais en fait, je me suis retrouvé à postuler à New York uniquement, dans des super labos, un à Columbia, un à New York University, à NYU, et puis celui où je suis maintenant, à la Icahn School of Medicine à Mount Sinai. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça, j'ai fait mes interviews, et puis finalement, ce labo dans lequel je suis, qui n'était pas mon plan A à la base, je dois l'avouer, j'ai été conquis par l'environnement, j'ai été conquis par le speech du PI, par tout ce qu'il pouvait offrir à un jeune docteur français qui venait s'installer dans une ville. Il y avait aussi un package d'accueil qui était assez formidable. Et puis, bien sûr, par la science. Mais j'en profite d'ailleurs pour dire aux gens qui nous écoutent que ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais je crois que plus le temps passe, plus le sujet scientifique, c'est un critère assez secondaire dans le choix du labo. Pour moi, hein, bien sûr, je parle de mon opinion, hein. Je pense que à partir du moment où c'est un sujet qui m'intéresse, sur lequel je me vois travailler pendant des mois, des années, le point numéro un, c'est l'atmosphère du labo et surtout la relation humaine que je pourrais tisser avec les collègues et surtout avec le boss. C'est tellement il y a tellement de tragédies dans ce domaine, dans ce milieu de boss qui sont d'un point de vue managérial, un peu inadapté, qui mettent la pression sur les doctorants, les post-docs, que voilà, moi je recherchais ça dans la continuité de ma thèse, des gens ouverts, des gens passionnants, des gens qui allaient m'apporter, mais qui aussi reconnaissaient ma valeur, et qui, voilà, c'est... Et puis une ambiance d'équipe à tout casser, quoi. Et ça, c'était vraiment important. Et donc j'ai choisi ce labo-là, et puis j'en viens... Donc là, maintenant, je crois qu'il faut que je vous parle de mon sujet, de ce que je fais. Donc, ce que je fais, c'est un petit peu quand même dans la continuité de ma thèse. C'est-à-dire que je m'intéresse à essayer de comprendre vraiment la science fondamentale et notamment la neurophysiologie derrière les maladies psychiatriques. Donc, pendant Ma thèse, je vous ai parlé du côté addiction nicotine, puis il y a des choses que je ne vous ai pas racontées. J'avais aussi des projets sur comment la nicotine, de manière chronique, change le decision-making, change le comportement. Des projets d'ailleurs qui sont un peu toujours en collaboration et en train d'être réalisés avec mon ancienne équipe à Paris. Et là, maintenant, ici à New York, je fais ce qu'on appelle plutôt des neurosciences affectives, c'est-à-dire que je m'intéresse à tout ce qui est comportement social et les maladies psychiatriques qui vont affecter ce comportement social. Donc, par exemple, comment un stress social répété va mener à la dépression, par exemple. Dans des cas les plus graves, à ce qu'on appelle les major depressive disorders, avec des tendances suicidaires et ce genre de tragédies humaines. Mais aussi, et plus précisément mon sujet actuellement, ce que je fais au quotidien, j'essaye de comprendre les bases neurobiologiques de l'agression et pourquoi, à un moment donné, un individu va attaquer une cible, va considérer qu'il y a situation de menace et va engager une violence physique. Alors, comme on travaille beaucoup sur des modèles animaux, on parle surtout de violence physique, parce que c'est difficile d'entendre l'agression verbale chez les animaux. Mais c'est aussi quelque chose, bien sûr, qui nous intéresse, parce que c'est une forme d'agression. Et c'est, si vous voulez, essayer de comprendre quels sont les circuits neuronaux et tout ce qui les impacte qui vont entraîner la genèse, l'apparition de ce comportement d'agression. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que quand on prend une population, que ce soit des animaux ou des humains, il y en a qui attaquent et il y en a qui n'attaquent pas. Et c'est encore plus vrai chez les animaux, parfois avec un background génétique qui est similaire. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de contextuel et dans l'expression de leur soi biologique qui fait qu'ils vont développer un comportement agressif ou non. Et ça, c'est extrêmement... à mon sens, intéressant et important dans la société qui nous entoure. On en parle en ce moment avec les violences policières, la peur de l'autre et les inégalités qui se créent de considérations raciales d'un autre temps, les violences conjugales, les violences faites aux femmes, aux enfants, où ce sont des situations où il n'y a pas de menace et on a des individus qui perdent pied et qui se mettent à avoir un comportement agressif dans des situations qui ne sont pas prévus ou en tout cas qui ne le requièrent pas puisqu'il n'y a pas de menace et il n'y a pas besoin de se défendre. Donc voilà, on étudie ça. Moi, je suis un neurophysiologiste, donc ce que je fais, c'est que j'enregistre des neurones, j'enregistre l'activité des réseaux de neurones. Mais il y a aussi, dans le labo où je suis, toute une autre partie de l'équipe à laquelle j'essaye de me fondre de plus en plus et avec laquelle j'essaye d'apprendre beaucoup, qui s'intéresse à quelque chose de très intéressant, c'est comment le système immunitaire et comment, notamment, par exemple, le microbiote intestinal ou tous les agents circulants immunitaires qui sont dans le sang vont impacter le comportement et vont aussi impacter ces troubles d'ordre psychiatrique, l'agressivité, la dépression, l'interaction sociale. Ça, c'est passionnant parce que c'est cette idée de déconstruire ce que Antonio Damasio, dans son bouquin, appelle l'erreur de Descartes. C'est-à-dire de dire qu'il n'y a pas de dichotomie entre l'esprit et le corps et de dire que le corps est dans la continuité de l'esprit, en fait partie, et que ce qui se passe dans la périphérie, le système immunitaire, le système digestif, le microbiote, impacte le comportement et va venir moduler notre personne, notre comportement, et particulièrement dans les cas... Où la pathologie survient, dans les cas où la psychiatrie est mise en jeu.
Alors, je vais juste revenir un peu en arrière sur un petit passage que tu as dit qui me semble très important de souligner. Quand tu parlais du fait que plus on avance et moins le sujet importe sur le choix du laboratoire, en tout cas dans notre carrière de chercheur, etc. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est même déjà très important lorsqu'on choisit nos thèses. Et ça, on s'en rend pas forcément compte quand on est en train de chercher une thèse, en train de chercher un laboratoire. Mais comme tu l'as très bien dit, vraiment, l'ambiance et les relations qu'on peut avoir avec l'équipe encadrante, c'est primordial, quitte à avoir peut-être un sujet qui nous plaît moins ou un sujet dans lequel on n'avait pas forcément pensé se retrouver parce qu'on ne connaît pas le matériau, parce qu'on ne connaît pas forcément la façon de faire, etc. En fait, c'est très important Et toi, tu disais que c'est en avançant que tu le penses de plus en plus, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir conscience, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, qui souhaiteraient se lancer dans la recherche. Alors du coup, là, tu nous as expliquer tous tes travaux de recherche et je trouve ça très intéressant. Bon, de toute façon, la recherche, c'est toujours intéressant. Mais j'aurais plutôt des questions un peu pragmatiques. Forcément, donc tu as fait ta thèse en France. Là, tu fais ton post-doctorat à l'étranger. Alors, c'est vrai qu'en général, on est très, très incité à réaliser un post-doctorat à l'étranger parce que c'est une expérience quand même assez particulière. C'est une expérience enrichissante et souvent... on nous pousse un peu à aller à l'étranger, du moins pour gagner des points et que notre CV pèse plus lourd. Alors toi, maintenant que tu es confronté à ça, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu trouves qu'effectivement, c'est quand même un sacré bonus de faire un post-doctorat à l'étranger ? Est-ce que tu vois beaucoup de différences entre faire un post-doctorat, en tout cas en France et dans un pays... Bon, on va peut-être pas dire anglophone, mais un pays qui ne serait pas européen, parce que je suppose que tu as des collègues qui sont dans la recherche dans des pays européens. Si tu avais envie, voilà, d'établir un peu un cahier des charges, faire des petites différences, des petits avantages, des petits inconvénients, voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire ?
Effectivement, super question, très important, parce que c'est devenu, comme tu dis, quelque chose qui relève un petit peu de la pression. Pour les jeunes chercheurs, pour les jeunes docteurs en sciences, c'est cette idée qu'il faut aller se former et développer une carrière internationale à l'étranger. Alors déjà, la première chose que je voudrais dire, et qui est plutôt dans la colonne des avantages du coup, c'est que quand on peut le faire, quand on n'a pas d'attaches qui nous retiennent en France, c'est quand on est français ou quand on a fait sa thèse en France, et qu'on peut partir à l'étranger... là où on se sent appelé, que ce n'est pas un frein pour notre vie familiale, voilà, c'est une expérience géniale. C'est la première chose que je dois dire. Par exemple, moi, là, je suis ultra émerveillé, heureux, épanoui de découvrir une culture qui est quand même assez différente de la nôtre, même si ça reste l'Occident développé. Il y a quand même deux systèmes qui divergent, voilà. Donc ça, c'est vraiment le côté hyper positif. C'est une aventure incroyable. Quand on peut le faire encore plus accompagné, c'est génial. Voilà. Et puis, d'un point de vue très égoïste, tu parlais de pays anglophones. Bon, qu'on le regrette ou qu'on le regrette pas, c'est comme ça. La langue de la science en ce moment, la langue de la recherche, c'est l'anglais. Donc maintenant ça fait un an et demi que je suis ici, après un an et demi aux États-Unis, je vois déjà comment mes progrès, j'avais de la chance de parler plutôt bien anglais à la base parce que ça faisait un petit moment, et puis déjà dans le labo en France on parle anglais hein, parce qu'il n'y a pas que des Français, mais déjà les progrès que j'ai fait jusqu'à maintenant, je sens à quel point ça me donne de la facilité pour lire, pour écrire et pour communiquer la science. Il y a aussi un autre truc qu'il faut dire, qui peut-être va être un peu polémique pour nos auditeurs, peut-être qu'ils ne seront pas d'accord et je serais ravi d'en débattre avec eux, c'est que je trouve que l'anglais est super bien adapté à la discussion scientifique. Je trouve que la science, elle a besoin de faits, d'observations concrètes et d'une discussion qui soit basée sur les faits et qui soit finalement assez peu nuancée. J'adore la nuance dans le langage, hein, j'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup l'aspect littéraire des choses. Mais la science a parfois besoin de ce côté très pragmatique de l'anglais. Et c'est vrai que ça marche bien. Et je comprends pourquoi un petit peu l'anglais s'est imposé. C'est aussi pour des raisons géopolitiques. Mais je comprends aussi pourquoi l'anglais s'est imposé comme langue scientifique, parce qu'elle est très bien adaptée. Et donc, développer mes capacités en anglais, ça a été un gros plus. Et bien sûr que d'un point de vue très personnel, ça, c'est aussi un avantage. Ensuite, il y a aussi un autre avantage. J'ai parlé d'une aventure super, découvrir une nouvelle culture, mais il y a aussi découvrir la recherche différemment. Par exemple, découvrir... Moi, je suis parti de France où, clairement, on pourrait en discuter pendant des heures. La recherche n'est pas une priorité de l'État, du gouvernement, et où c'est une fonction publique, comme la plupart des pans de la fonction publique, qui est un peu laissée à l'abandon, parfois. Ici, aux États-Unis, c'est complètement différent. C'est pas une fonction publique. La recherche, elle se fait bien souvent dans des centres de recherche des universités qui sont privées, mais avec des fonds, des financements qui sont publics, notamment le NIH ou la NSF, qui sont des gros instituts de financement américains. Et c'est de l'argent quand même fédéral, quoi, de l'argent issu des taxes. Et là, on voit que les moyens mis dans la recherche ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est aussi une façon de découvrir la science assez différemment. Ça veut, je ne suis pas en train de dire que c'est mieux et que tout est mieux, hein, pas du tout. C'est juste différent et ça permet de réfléchir un peu sur notre métier et sur notre domaine et de comment, justement, ces moyens différents, ça change la façon dont on fait les sciences, les objectifs qu'on se fixe, la façon dont on essaye d'obtenir cet argent. Tout est assez différent en étant malgré tout assez similaire et c'est assez, assez sympa d'observer ça de l'extérieur, quoi. Et puis, il y a aussi, alors, il y a un truc dont je me rends de plus en plus compte en étant ici, c'est qu'il y a quand même une mentalité française et qui est particulière sur, notamment, plusieurs questions. Mais en France, on a développé un fort côté sceptique. Le scepticisme scientifique français, c'est quelque chose qui est très fort et d'ailleurs hyper drôle à voir. Dans les conférences, quand tu vois une question agressive à la fin, tu te dis il y a une chance sur deux que ce soit un Français. Et ça, on le voit au quotidien. C'est-à-dire qu'ici, il y a une espèce de, ah, je vais dire un peu d'hypocrisie, mais aussi un petit peu d'enrobage, on va dire. Alors parfois, ce n'est pas désagréable, mais où la première chose qu'on va dire, c'est ouais, c'était une super présentation, bravo, c'est génial, c'est incroyable. Et ensuite, éventuellement, une question un peu tendancieuse, un peu piquante sur la science. Français cash, boum, question. Je pense que, d'ailleurs, les Américains sont assez friands de ça. Ils aiment bien quand on apporte ça parce que c'est honnête, c'est franc. Moi, je pense en tout cas que dans notre vision un peu zététique, l'art du doute, notre vision un peu zététique qu'on a en France de la science, c'est très important parce que ça permet de questionner et c'est constructif au final. Donc, on a ces mondes qui s'opposent et c'est assez génial pour ça de le vivre. Et puis, moi, je connais bien sûr maintenant les États-Unis, mais il y a les Anglais, il y a les Allemands, il y a bien sûr tous les pays asiatiques, il y a aussi de la super recherche qui se développe dans des zones auxquelles on pense un peu moins, dans des domaines un peu plus spécifiques, mais par exemple en Afrique, pour tout ce qui est l'étude de la biodiversité, tout ça. Enfin voilà, c'est un monde qui ne peut se passer de recherche. La recherche, elle est partout, elle est nécessaire, elle doit mieux trouver sa place dans la société. Et je pense que voyager, être un jeune chercheur qui voyage et qui découvre la recherche dans le monde, c'est quand même un bon atout pour se construire soi-même en tant que chercheur. Donc, il y a une pression à partir, mais quand on peut le faire, c'est quand même très positif. Et effectivement, ça enrichit le CV. Pas que le CV pour être recruté, mais aussi le bagage qu'on a et les compétences qu'on a. Les inconvénients, ça dépend un peu de la situation personnelle de chacun. Il faut pouvoir le faire. Parfois, ça impose de quitter sa famille, de partir loin. Ça impose parfois des difficultés d'ordre familial, si on a des enfants, si on peut... voilà. Et puis aussi, être expatrié dans un pays à l'étranger, ça oblige un peu à trouver les bonnes conditions, à trouver encore plus que quand on reste à la maison, un labo avec une super ambiance, une super atmosphère. Parce que ce n'est pas facile tous les jours d'être loin de chez soi. Et voilà, il y a des démarches qu'on ne comprend pas, il y a une nouvelle société qu'il faut appréhender, auquel il faut se familiariser. Et donc, avoir des gens autour qui vous supportent, qui vous donnent les conditions matérielles et affectives et managériales pour vous intégrer dans cette société, c'est fondamental. Encore plus à l'étranger qu'ailleurs. En France, et moi j'en ai eu autour de moi, de personnes qui ont été recrutées, qui ont eu un poste de chercheur en n'ayant jamais quitté la France parce qu'ils ne voulaient pas ou parce qu'ils ne pouvaient pas. Et ça s'est bien passé pour eux parce qu'ils ont su trouver leur voie. Donc je crois qu'il n'y a pas vraiment de règles. Je crois que quand on peut le faire et qu'on a envie de le faire, il ne faut absolument pas s'empêcher. Et si on ne peut pas et qu'on n'a pas envie, il y a aussi des voies alternatives.
Si tu peux nous répondre, comment est-ce que tu te vois? Et où est-ce que tu te vois dans ton avenir de chercheur ?
Question difficile, parce que je crois que c'est un peu la définition des jeunes années en recherche, c'est que tu n'as aucune visibilité sur l'avenir. Donc, Il y a une partie de ma réponse qui va relever du fantasme, forcément. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, comme je te l'ai dit, Mathilde, un peu plus tôt, ma philosophie, c'est devenu, pour rester sain d'esprit, c'est de me dire, tant que la porte est ouverte, je continue. Et je continue à faire ce qui me plaît. Mais je ne vais pas en faire une question de... Vous savez, sur la question de la publication, on entend souvent cette notion « publish or perish ». Si on l'adapte à la carrière du jeune chercheur, moi j'essaye si c'était trouver un poste ou périche, j'essaye de ne pas l'envisager comme ça. Pour moi, il n'y a pas de périche. C'est trouver un poste ou faire autre chose. Si je trouve un poste, ben j'aimerais bien continuer, j'aimerais bien développer mes propres questions de recherche avec, je l'espère, les compétences managériales que j'ai appréciées chez mes mentors et les développer et même aller encore plus loin dans cet aspect-là pour aider à nouveau des jeunes chercheurs et pour créer un environnement de travail qui soit confortable, quoi, parce que je pense que il faut que ce soit plaisant. Donc, si je peux faire ça dans mon propre labo ou en intégrant un autre labo déjà avec un poste, c'est ce que j'aimerais bien. Après, si la porte se ferme, se claque sur mon nez, je trouverai autre chose à faire. Il y aura toujours probablement des sciences un petit peu dedans.
Pour finir ce podcast, ce serait bien si tu pouvais donner des conseils à des auditeurs qui, par exemple, sont au début de leurs études et ne savent pas du tout ce que c'est réellement le monde de la recherche. Quel conseil tu leur donnerais ? Quelle image tu voudrais leur donner de la recherche ? Ou même à des auditeurs qui sont peut-être actuellement en thèse. Voilà, si tu as un message à faire passer, qu'est-ce que ce serait ?
Ouais, alors ça, je pense que c'est super et je suis très content que tu poses cette question parce que « back in the days », comme on dit, c'était une des volontés qu'on avait en créant Indesciences, c'était aussi de regrouper et de réunir ensemble les étudiants particulièrement, parce que c'était, en tant qu'associatif du monde étudiant, c'était les personnes qu'on avait envie de soutenir et qu'on avait envie d'aider, mais en réalité, toutes les personnes qui s'intéressent aux sciences, les réunir ensemble parce que ce qui nous semblait le plus important, c'était de parler de science, justement. Et je suis bien content que tu me poses cette question et que tu me dis quel conseil je donnerais. Ben, les conseils que je donnerais, moi, c'est surtout de développer votre esprit critique, c'est-à-dire de lire et de remettre les choses en cause, et en premier lieu vos propres connaissances, mais de le faire toujours avec bienveillance. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de tout remettre en cause et de tout essayer de réduire en cendres. L'idée, c'est d'être constructif, et je pense que c'est la définition même de la science. C'est-à-dire, il peut y avoir des avis qui s'opposent, des résultats contraires, des controverses scientifiques. C'est ça qu'on veut. C'est ça qui est agréable dans ce métier, et c'est ça qu'il faut développer. Après, pour être plus général, je dirais que mon conseil, ce serait de le développer, pas que vis-à-vis de la science et vis-à-vis de la recherche, en général dans la vie, être bienveillant, toujours remettre en cause ce qu'on a acquis, et que ce soit bien ou négatif, s'enrichir de ses échecs, voilà, capitaliser sur ses réussites et sur ce qui nous apporte de la joie. Je pense que ça, c'est important. Voilà, moi, je sais que... Une des raisons qui a fait que j'ai choisi le labo dans lequel je suis en postdoc et qui m'a donné envie de continuer d'être là où je suis maintenant, c'est une phrase que m'a dit mon nouveau mentor ici à New York pendant l'interview, pendant la petite discussion qu'on avait où voilà, il me parlait des recherches du labo et de moi, ce que je pourrais apporter et tout machin. Il m'a dit, ce qui est le plus important, et pardonnez mon langage en anglais, il m'a dit « Science doesn't have to be a pain in the ass ». Et je pense que c'est ça. La clé, que ce soit s'intéresser à la science, la communiquer ou la faire dans les laboratoires de recherche, ça doit être fun. Ça doit être fun, ça doit vous intéresser, ça doit être un bon moment. À partir du moment où ça devient la pression, où ça devient la goutte de sueur sous le front, et il y aura des jours comme ça, mais il ne faut pas que ça devienne la majorité. Je pense que c'est ça mon conseil, c'est l'enthousiasme, c'est garder vraiment l'intérêt pour la question initiale, quelle qu'elle soit. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, le plus important, c'est l'environnement, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression maintenant, il y a plein de labos, à partir du moment où le sujet m'intéresse, où la question, en fait, ce qui nous intéresse en tant que scientifique, c'est la question, c'est pas tellement la réponse. Donc, des questions, il y en a plein, il y en aura toujours plein. Et voilà, ce serait ça mon conseil.